Vous êtes sur RTL.
Robuchon, Jean-Philippe.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans RTL dimanche soir, on est ensemble jusqu'à 19h30. 1 500 000 fumeurs de moins en 2 ans. C'est selon Agnès Buzyn le résultat des politiques de lutte contre le tabagisme menées par le gouvernement. La ministre de la Santé, invitée du grand jury sur RTL, a dit qu'il n'était pas question pour l'instant d'interdire en France la cigarette électronique, comme cela vient d'être fait en Inde ou dans certains États américains. L'un des plus célèbres tour opérateurs du monde, la société britannique Thomas Cook, va-t-elle faire faillite ce soir? Une réunion cruciale se tient en ce moment à Londres. Si jamais une mauvaise nouvelle devait être annoncé, il faudrait rapatrier 600 000 touristes à travers le monde. En France, le PDG d'XL Airways en appelle à Air France pour sauver sa compagnie aérienne. Dans ce journal également, on va évoquer le procès fleuve du Mediator qui débute demain à Paris. Et puis on va vous raconter l'histoire du maire de Vienne, en Isère. Il a lui-même décroché le portrait d'Emmanuel Macron pour des gilets jaunes qui voulaient manifester avec. Football, 6e journée de Ligue 1. Cet après-midi, Rennes et Lille ont fait match nul, un but partout. Autre rencontre depuis 17h, Angers reçoit Saint-Etienne sous les yeux de Thierry Lardeux. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Philippe, et ce sont les Verts de Saint-Etienne qui mènent logiquement à la pause 1-0. Un joli but de la tête de Nordin sur un centre parfait de Mathieu Debuchy. 1-0, la deuxième période va reprendre dans quelques minutes.
Et ce soir à 21h, l'affiche de la soirée, l'Olympique Lyonnais reçoit le Paris Saint-Germain. En Formule 1, le Grand Prix de Singapour a été remporté cet après-midi par l'Allemand Sébastien Vettel sur Ferrari. Les courses, quintet de Vincennes, il fallait jouer le 15, le 9, le 16, le 3 et le 12. À 18h20, l'invité de ce journal, le ministre de la Culture, Franck Riester. On fera avec lui le bilan des journées du patrimoine. Des journées un peu arrosées. En tout cas, ce dimanche, la pluie a fait son grand retour. Bonsoir Patricia Charbonnier.
Bonsoir.
Ça continue demain?
Ça continue demain, ça continue ce soir. C'est vrai qu'on a eu pas mal de pluie aujourd'hui sur l'ouest, le centre et notamment aussi sur le bassin parisien. Cette perturbation, elle est en train de se décaler vers l'est. Donc là aussi, nous aurons des pluies soutenues cette nuit. Demain, petite accalmie avant une nouvelle dégradation pluvieuse qui arrivera par le nord-ouest. Le tout avec des températures comprises entre 9 et 18 degrés demain matin, température qui baisse l'après-midi, 17 à Brest, 20 degrés à La Rochelle, 22 à Paris, 27 à Bastia.
Merci Patricia, prévision complète à la fin de ce journal. Des agriculteurs qui attendaient cette pluie depuis des mois. Pour autant, il en faudra beaucoup plus pour ne plus parler de sécheresse. Écoutez, Luc Mesbah, céréali à Longage en Haute-Garonne, au micro de Patrick Tégéraud.
La pluie, on l'attendait, mais elle n'est pas assez conséquente. Des cultures actuellement comme les colza qui ont été implantées, mais manquent un peu d'eau. Il faut des précipitations aujourd'hui assez conséquente, aux alentours des 40 mm, pour qu'un sol très sec aujourd'hui puisse absorber cette eau et surtout que les cultures en aient l'efficience. Mais on est habitué, on est dans le sud et la sécheresse, on commence à plus que la connaître.
RTL dimanche soir. Philippe Robuchon.
La France va-t-elle à son tour interdire la cigarette électronique? Ces derniers jours, vous le savez, plusieurs pays ont durci leur législation, des États américains, New York, la Californie, ainsi que des géants comme l'Inde. Nous ne sommes pas du tout dans la même situation, a dit aujourd'hui sur RTL la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui était au grand jury. En France, selon elle, la législation est déjà sérieusement encadrée autour du vapotage. Pas question pour l'instant d'aller plus loin. Au passage, Agnès Buzyn a livré une autre information. Le nombre de fumeurs, tout court, a considérablement reculé depuis 2 ans en France. Résultat, selon elle, de la politique du gouvernement en matière de lutte contre le tabac.
Les résultats sont là. Nous avons près de 2 millions de fumeurs en moins depuis que nous sommes arrivés aux affaires. C'est énorme, c'est 1 500 000 fumeurs en moins, exactement. C'est grâce au prix du tabac, mais c'est tout un tas de mesures, notamment les patchs remboursés par la Sécurité sociale qui permettent d'arrêter de fumer. Donc des mesures d'aide à l'arrêt du tabac qui favorisent cela. Sur la cigarette électronique, nous avons pris les mêmes mesures que pour la vraie cigarette vis-à-vis des jeunes. Elle est interdite à la vente aux moins de 18 ans. Il est interdit de fumer ou de vapoter dans les mêmes lieux qu'il est interdit de fumer. Donc en réalité, nous ne sommes pas dans la même situation que les États-Unis. Les États-Unis laissent les gens faire leur propre mélange. On voit qu'il y a eu des cas d'événements indésirables très graves avec des morts parce que les gens utilisaient des huiles essentielles avec une toxicité pulmonaire.
Est-ce que vous y pensez les interdire tout de même?
Non, pour l'instant, il n'y a rien dans les tuyaux. Aujourd'hui en France, La législation est beaucoup plus rigide. Nous n'avons pas d'alerte aujourd'hui sanitaire particulière.
Agnès Buzyn, interrogée à la mi-journée lors du grand jury RTL, Le Figaro, LCI. Concernant le test sauvage sur les maladies d'Alzheimer et de Parkinson, mené, vous le savez, sur 350 personnes, la ministre de la Santé a précisé que tous ces patients étaient actuellement recontactés par les autorités. Concernant les grèves aux urgences, Agnès Buzyn s'est dite persuadée que les mesures annoncées ces dernières semaines vont calmer la grogne. Enfin, à deux jours de l'examen de la loi bioéthique à l'Assemblée, elle a répondu à l'avis de l'Académie de médecine qui a émis des réserves sur l'ouverture de la PMA pour toutes. Considérer qu'il y a un lien direct entre un défaut de construction de l'enfant et une famille monoparentale est faux, dit Agnès Buzyn. On l'entendra plus longuement tout à l'heure dans le MacPol à propos de la polémique sur l'aide médicale d'État accordée à certains étrangers. C'est un vrai compte à rebours qui a commencé à Londres à propos de l'avenir d'un géant du tourisme, l'entreprise britannique Thomas Cook. Elle est peut-être sur le point de faire faillite. Il lui faut trouver ce soir au plus tard 227 millions d'euros. Un conseil d'administration exceptionnel se tient en ce moment même. Si par malheur, aucune solution financière n'était trouvée, eh bien 600 000 touristes se retrouveraient en rade partout dans le monde. Bonsoir Armel Lévy.
Bonsoir.
Ce serait un énorme coup de tonnerre dans le monde du tourisme. Rapatrier 600 000 voyageurs, ce serait tout simplement la plus grosse opération depuis la Seconde Guerre mondiale.
Oui, il faudrait 15 jours, 3 semaines pour rapatrier tout le monde, y compris les 10 000 Français actuellement en vacances avec Thomas Cook. Des avions seraient alors affrétés spécialement, une opération de rapatriement très coûteuse pour le gouvernement britannique, comme le souligne Didier Arino du cabinet ProTourisme.
Ah oui, mais c'est un point aérien monstrueux. C'est un point aérien de guerre, hein. Il faut les trouver, les avions. Il est évident que vous ne rapatriez pas 600 000 touristes en demandant aux compagnies aériennes desservant ces destinations d'embarquer les passagers. Leur capacité n'y suffirait pas. Donc on serait dans la logique d'un pont aérien organisé par le gouvernement britannique. Ben, ils paieront 600, 800, 1 milliard, certainement plus d'ailleurs, s'ils doivent aller rechercher leurs concitoyens partout sur la planète, dans tous les hébergements et dans tous les lieux desservis par Thomas Cook.
Cette faillite serait un cataclysme, un tsunami selon les experts du tourisme. Thomas Cook, c'est l'inventeur du voyage organisé en 1841. Aujourd'hui, ce mastodonte génère plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, compte 20 millions de clients, 200 hôtels, 2 compagnies aériennes avec une centaine d'avions et emploie 22 000 salariés dans le monde, dont 700 personnes en France. Sa faillite marquerait la fin d'un modèle, celui du tourisme de masse face à un tourisme plus personnalisé.
Merci Armel Lévy pour ces explications. Ce secteur du tourisme, en tout cas, est décidément bien fragile en ce moment. En France, la compagnie Aigle Azur attend toujours un repreneur. Une autre compagnie, XL Airways, a dit cette semaine qu'il lui manquait 35 millions d'euros pour éviter de mettre la clé sous la porte. Le PDG d'XL Airways en appelait ce matin à Air France. Bonsoir Arnaud Touche.
Bonsoir.
Pour l'instant, la compagnie nationale fait la sourde oreille.
Absolument, les conditions ne sont pas réunies à cet instant pour une rencontre, me confiait il y a quelques minutes une source proche du dossier. Le ministère des Transports est très sollicité ce week-end et tente de faire le lien entre les deux compagnies. Le PDG d'XL Airways en appelle toujours à Air France ce soir et il compte bien être entendu. Il faut rappeler que dans ce dossier, XL Airways a bien failli être racheté par la compagnie nationale. C'était l'année dernière, les contrats étaient prêts, mais l'opération a échoué lors du départ de l'ancien PDG d'Air France, Jean-Marc Janaillac. C'était en mai l'année dernière, après un référendum houleux. Ben Smith, l'actuel PDG d'Air France, n'a pas donné une suite favorable au dossier XL lors de son arrivée. Les 570 salariés de la compagnie low cost ont prévu de se mobiliser demain matin devant le ministère des Transports, puis au tribunal de commerce de Bobigny. Hasard du calendrier, les 4 repreneurs potentiels d'Aigle Azur, cette fois, seront entendus au tribunal de commerce d'Evry.
Merci Arnaud Touche. Il est 18h09 sur RTL, on va marquer une petite pause. Dans un instant, on va aller à Vienne, en Isère, où le maire se retrouve au milieu d'une polémique assez étonnante. Il a accepté lui-même de prêter et de décrocher un portrait d'Emmanuel Macron pour une manif de gilets jaunes.
Jusqu'à 19h30, RTL dimanche soir.
Un jour,
RTL dimanche soir.
Philippe Robuchon.
Alors que depuis plusieurs semaines, des décrocheurs comparaissent en justice pour avoir dérobé des portraits d'Emmanuel Macron dans les mairies, à Vienne, en Isère, ils n'ont même pas eu besoin de se fatiguer. C'est le maire, lui-même, Thierry Kovacs, membre des Républicains, qui s'en est chargé. Il a confié ce portrait à des gilets jaunes qui menaçaient, à vrai dire, de s'en emparer pour aller à une manifestation. Sur place à Vienne, dans l'opposition, dans l'équipe municipale, l'initiative du maire n'a pas fait plaisir à tout le monde. Sur place, Nerissa Emani.
En fait, ce sont les gilets jaunes et les militants écologistes qui ont proposé au maire Thierry Kovacs de leur prêter le portrait du président. Sinon, ils iraient le décrocher eux-mêmes en mairie. L'édile Les Républicains a donc accepté pour le plus grand bonheur de Julien, gilet jaune.
Le prêt, ça nous a soulagé dans un sens de dire on prend moins de risques et c'est de manière légale, etc. Le message était vraiment écologique. Faut avancer, les petits pas, ça suffit plus. Le portrait, il n'y a aucune dégradation qui a été faite dessus. On y a fait très attention.
C'était d'ailleurs une condition du maire pour ce prêt. Il explique dans un communiquer, soutenir les revendications des manifestants. Et c'est donc photo à l'envers que le portrait du président a défilé hier. Une honte pour Florence David, candidate La République En Marche au municipal.
Ah bah ça m'a mis hors de moi en fait. Aujourd'hui, un portrait du président de la République, c'est un symbole de la République. Quel sera le prochain acte qu'on trouvera normal parce que banal? Brûler un drapeau français dans la cour d'une mairie? On est dans une situation où on voit une montée de violence. Et je pense qu'il faut que les élus prennent leurs responsabilités avec ces gestes qui sont anti-républicains.
Le portrait prêté tout le week-end devrait retrouver sa place dès demain matin.
Nerissa Imani à Vienne dans l'Isère pour RTL. À Marseille, deux mineurs toujours en garde à vue après la mort d'un adolescent hier après-midi dans le quartier Saint-Loup au pied d'une résidence HLM. Cet ado d'une quinzaine d'années a reçu des coups de couteau. On ignore le mobile de la rixe. À l'étranger, en Israël, les consultations continuent pour former un gouvernement. Le leader nationaliste Avigdor Lieberman a dit qu'il ne soutiendrait ni Benjamin Netanyahou ni Benny Gantz, son adversaire de la coalition centriste. En revanche, les partis arabes, eux, ont décidé de soutenir Benny Gantz pour le poste de Premier ministre. Retour en France avec demain un procès retentissant qui s'ouvre à Paris, le procès du Mediator, l'un des plus grands scandales sanitaires de ces dernières années. Le Mediator, on le rappelle, était à l'origine un antidiabétique des laboratoires Servier, mais il a été prescrit comme coupe-faim à plus de 5 millions de patients avant d'être retiré du marché en 2009. Un procès fleuve qui va durer 6 mois et qui se tiendra dans la plus grande salle du nouveau palais de justice dans le quartier des Batignolles. Bonsoir Odile Pouget.
Bonsoir.
376 avocats, 120 témoins et des milliers de victimes dont beaucoup seront absentes, soit parce qu'elles sont décédées, soit parce qu'elles ont déjà été indemnisées.
Oui, d'abord, des morts très nombreux. Une expertise judiciaire estime leur nombre à terme à 2100. En majorité des patients âgés, mais pas seulement. Certaines victimes avaient moins de 50 ans. Toutes avaient pris du Mediator pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Médicaments à l'origine de très graves effets secondaires, en particulier l'hypertension artérielle pulmonaire et un dysfonctionnement des valves cardiaques. Un procès sur lequel va donc planer l'ombre de ces morts. Un procès marqué également par l'absence sur le banc des parties civiles des personnes les plus gravement atteintes. Beaucoup de malades qui ont peu de temps devant eux, ont choisi en effet de toucher de l'argent de la part de Servier dans le cadre d'une procédure amiable, un fonds placé sous la responsabilité de l'ONIAM, l'Office d'indemnisation des accidents médicaux. Il serait 3600 dans ce cas. Ces indemnisations vont de quelques milliers à plusieurs centaines de milliers d'euros. En contrepartie, ces malades ont accepté de renoncer à toute poursuite judiciaire contre le laboratoire.
Odile Pouget, spécialiste santé de RTL, merci. L'exposition Toutankhamon, le trésor du pharaon, s'apprête à fermer ses portes ce soir à Paris, à la Grande Halle de la Villette. Eh bien, on va battre le record. 1 420 000 visiteurs, ce sera tout simplement l'expo la plus visitée de toute l'histoire en France. Les sports, on y revient, la sixième journée de Ligue 1 de football. Je vous rappelle le match nul cet après-midi, un but partout entre Rennes et Lille. Angers-Saint-Etienne, Thierry Lardeux, où en est-on?
Eh bien les Angevins ont égalisé il y a trois petites minutes de cela, suite à un rush de Mathias Pereira-Lage qui venait de faire son entrée. C'est Pierrick Capel qui a trompé Stéphane Ruffier, le capitaine stéphanois. Un but partout entre les deux équipes, puisque je vous rappelle que ce sont les Verts qui avaient ouvert la marque par Arnaud Nordin en première période.
Merci Thierry. Le choc de cette sixième journée aura lieu ce soir à 21h entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. C'est un peu notre finale de Ligue des Champions, a dit Jean-Michel Aulas. Rencontre à suivre sur RTL dans Soir de Ligue 1 en partenariat avec le Parisien aujourd'hui en France de 20h à 23h. En rugby, les résultats du jour en Coupe du Monde. L'Italie a battu la Namibie 47-22. L'Irlande a frappé fort d'entrée en battant l'Écosse 27-3. Enfin, l'Angleterre a facilement battu les Tonga 35-3. En Formule 1, c'est l'Allemand Sébastien Vettel sur Ferrari qui a remporté aujourd'hui le Grand Prix de Singapour. Il a devancé son coéquipier Charles Leclerc. Au classement des pilotes, c'est toujours Lewis Hamilton, le Britannique, qui est en tête. Puis en moto, le 83e Bol d'Or remporté par Suzuki, équipage Philippe Masson-Black, équipage franco-britannique. Une épreuve largement tronquée par la pluie. La course avait été arrêtée toute la nuit. Patricia Charbonnier, rebonsoir.
Rebonsoir.
La pluie, justement, on a été pas mal arrosé ce dimanche. Il faut s'y faire, l'automne arrive.
Oui, on l'attendait, cette perturbation atlantique. Elle a donné pas mal de pluie, comme prévu, sur l'ouest, le centre et sur le bassin parisien. Exemple à Paris, il n'avait pas plu depuis le 18 août et on a eu un bon arrosage aujourd'hui. Cette perturbation, elle est en train de se décaler vers l'est. Donc ce soir et cette nuit, on aura des pluies localement soutenues sur l'est, en particulier sur la Bourgogne et la Franche-Comté. Et demain, cette perturbation va finir de s'évacuer par les frontières de l'est. On profitera d'une accalmie dans la journée, donc on pourra revoir quelques éclaircies avant une nouvelle dégradation pluvieuse qui va arriver dès demain matin par la pointe bretonne et qui gagnera tout le quart nord-ouest dans l'après-midi avec des températures comprises entre 9 et 18 degrés demain matin avec 11 à Limoges, 13 à Bordeaux, 15 à Toulon et 17 à 27 dans l'après-midi, 17 degrés à Brest, 21 à Limoges, 22 à Paris, 27 degrés à Bastia.
Et pour le reste de la semaine ?
C'est bien l'automne avec les perturbations qui vont s'enchaîner, à peu près une perturbation par jour, en tout cas sur la moitié nord du pays, sur une large moitié nord. Donc encore de la pluie et du vent sur les côtes de la Manche et, et les côtes de l'Atlantique. Alors entre deux perturbations, on peut quand même espérer revoir quelques éclaircies. En revanche, le temps va rester sec tout au long de la semaine avec un ciel lumineux près de la Méditerranée. Puis les températures qui ont déjà bien chuté aujourd'hui après le passage de la pluie. 20 degrés cette semaine en moyenne sur la moitié nord et 24 degrés dans le sud.
C'est noté. Merci beaucoup Patricia Charbonnier. 18h18 sur RTL. Dans un instant, l'invité de RTL dimanche soir, le ministre de la Culture, Franck Riester. On va faire avec lui le bilan des journées du patrimoine.